propose de lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes tous très conscients que nous avons besoin du secours et de l'aide du Saint-Esprit pour aller de l'avant et être dans ce monde qui va de plus en plus à la dérive, des témoins efficaces pour la gloire de son nom. Et d'ailleurs, quand on lit avec attention ce que disent les Écritures, on sait que l'Esprit de Dieu nous est accordé pour que nous soyons des témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8, où se trouve cette promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus lui-même, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Lorsque Jésus a parler de cette manière-là, les disciples n'ont pas dû être surpris ni étonnés, parce qu'ils avaient déjà entendu parler Jésus de l'Esprit Saint. Jésus, par exemple, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 13, leur avait dit que lorsqu'ils seraient amenés devant les tribunaux, comme conséquence de leur témoignage en tant que chrétien, eh bien, le Père Céleste lui-même leur donnerait les paroles à prononcer par le Saint-Esprit, les paroles qu'ils mettraient dans leur propre bouche. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 20, eh bien, Jésus avait déjà dit aussi « L'Esprit de votre Père parlera par votre bouche. » La veille de sa mort, Jésus lui-même a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit et il a parlé de cette manière-là en disant « Maintenant je suis avec vous, mais alors le Consolateur, celui qui vient après moi, lui sera en vous. » Et cette action du Saint-Esprit devait leur permettre d'être des témoins, pas seulement par la puissance de la parole, mais aussi par leur comportement, par leur manière de vivre, par leur manière d'agir. Et quand on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, on s'aperçoit que les disciples du Seigneur, les chrétiens qui composaient cette église, avaient, en ce qui concerne le témoignage, un véritable problème. Parce que, d'une part, ils pouvaient rendre témoignage de ce fait, qu'ils possédaient tous les dons de l'Esprit, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans cet épître, mais en même temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de choses qui ne pouvaient pas honorer Dieu, qui ne pouvaient pas glorifier Dieu. Entre autres, il est dit à un moment donné qu'il y avait une impudicité telle parmi eux qu'on ne la rencontrait même pas dans le monde. En plus de ce fait qui est décrit dans l'Écriture, eh bien, on se rend compte qu'il y avait manifestation d'orgueil, manifestation de jalousie, il y avait de la médisance, il y avait même en quelque sorte de la haine qui se manifestait entre les membres de cette église, au point même qu'à un moment donné, l'apôtre Paul est obligé de les reprendre puisqu'ils se faisaient des procès les uns les autres. Et quand on découvre que le Seigneur Jésus a dit « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins » et que l'on voit cette manière d'agir, eh bien, on se rend compte qu'ils avaient quand même besoin de comprendre quelque chose qui est significatif, qui est plus important. Ils avaient besoin de saisir ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais faire une différence entre, vous savez, des expériences qui sont sentimentales, émotionnelles, qui arrivent un peu comme d'un seul coup, une grande tempête qui remue tout, qui bouscule tout, mais qui peut constituer aussi un certain danger. Et puis, le fait d'être rempli du Saint-Esprit quotidiennement par une relation étroite que nous entretenons avec le Seigneur. J'ai lu un article qui a été écrit par un certain missionnaire qui avait travaillé dans certains pays africains. Et dans cet article-là, entre autres, il dit la chose suivante. Dans certains pays où il y a beaucoup de sécheresse parfois, il est difficile de pouvoir avoir à sa disposition une quantité d'eau suffisante. Et il mettait en relief le fait que parfois il y a juste une petite source quelque part qui coule très régulièrement sans jamais être tarie. Mais c'est un mince filet d'eau. Et avec ce mince filet d'eau, il suffit d'avoir de la patience et de maintenir un récipient pendant un certain laps de temps jusqu'à ce que ce récipient arrive à plénitude. Et il dit, mais dans ce même pays, parfois, et il arrive qu'il y ait des bourrasques de vent, il y ait des tempêtes impétueuses, il peut y avoir d'un seul coup beaucoup de pluie qui tombe et dont il y a des réservoirs qui ont été préparés. Parfois ça se trouve au milieu d'un torrent, parfois ça se trouve dans un autre endroit et subitement ces mêmes récipients sont remplis très rapidement, mais il dit « ce n'est pas sans danger ». Voyez-vous, je voudrais faire ici une analogie, une sorte de comparaison. Mes frères et sœurs, nous attendons souvent qu'il y ait une manifestation particulière, un peu comme cette bourrasque qui va venir, un peu comme c'est arrivé aussi le jour de la Pentecôte, où il y a eu ce vent impétueux et il y a eu des choses merveilleuses, absolument formidables, qui se sont réalisées, qui se sont accomplies. Mais on voit qu'avec le temps, eh bien, par exemple, l'église de Corinthe se trouve dans les premiers temps de l'ère chrétienne. Et puis voilà des hommes et des femmes qui confessent le nom de Jésus, mais dont le témoignage est tellement éloigné de ce que le Seigneur aurait voulu qu'il démontre et qu'il manifeste. Et parfois, nous trouvons des hommes et des femmes qui peut-être sont sans, exploit particulier, mais qui se maintiennent dans une étroite relation avec le Seigneur, une étroite relation avec Dieu, qui maintiennent une vie de prière quotidienne, non pas une prière faite à la va-vite, non pas un moment accompli comme un devoir, mais qui savent se tenir devant le Seigneur jour après jour, fidèlement, sans, esbrouf, mais vraiment avec un cœur qui est rempli d'amour. Et dans cette réelle communion avec Dieu, ils reçoivent par le Saint-Esprit quelque chose qui remplit leur cœur, qui remplit leur vie. Et voyez-vous, je dirais que aux yeux de l'Éternel, être rempli du Saint-Esprit, c'est manifester d'une manière particulière et authentique la présence de Dieu dans son être, et cela va se traduire par des effets qui ne sont pas toujours spectaculaires. Mais Dieu sait toujours se glorifier au travers de telles vies qui se maintiennent dans une relation étroite avec Dieu. C'est pourquoi je reviens maintenant à mon texte, et je vois Paul qui va parler à ses Corinthiens, qu'il aime certainement de tout son cœur. Il connaît les difficultés qu'il traverse, il connaît aussi la situation dans laquelle il se trouve, notamment dans le domaine moral. Il n'y a pas en lui, un reproche acerbe, mais il veut les amener sur un terrain où enfin ils vont pouvoir être des témoins glorieux pour le Seigneur. Et d'ailleurs, dans les quelques versets qui précèdent le texte que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, il fait mention de tout ce qui les caractérisait avant qu'ils ne connaissent le Seigneur. Par exemple, au verset 10, il est dit ici, mais ne vous y trompez pas, c'est ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et d'un seul coup, il ajoute, mais et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais notez, il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Là, il met en relief quelque chose d'important. Certes, il possédait les dons, certes, il pouvait parler en langue, certes, quelques-uns pouvaient prophétiser, certes, quelques-uns d'autres avaient reçu quelques dons encore plus précieux, s'il est possible de s'exprimer de cette manière-là. Mais en tous les cas, pour lui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir été sanctifié, justifié et glorifié en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et il s'est rendu compte que quelques-uns d'entre eux qui avaient fait une expérience de base excellente, réelle, authentique, la preuve, c'est qu'il le dit au travers de ce verset. Pour autant, ils se sont laissés aller à une sorte de comportement qui ne peut pas glorifier le Seigneur. Ils ont été négligents dans leur recherche avec le Seigneur et ils ont trouvé des excuses pour vivre un peu comme dans leur entourage on vivait. Car en fait, c'est une chose connue que à Corinthe, parmi les Grecs, comme aussi parmi les Romains, et la l'impudicité, je dirais la fornication, était une chose courante. Les hommes et les femmes vivaient dans cette prise de conscience que finalement, puisque tout le monde le fait, eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. Et comme il vient de faire des reproches à ce sujet-là, et que probablement il a dû faire mention aussi de quelque chose d'important. Vous savez, quand on vit dans le désordre, on peut aussi porter attention à certains détails, comme ceux qui concernent la nourriture. Et l'apôtre Paul a dû apporter un enseignement au sujet de la nourriture. Vous savez, certains pouvaient vivre dans la fornication, mais en même temps, ils se disaient, est-ce que je peux manger de telle chose? Est-ce que je peux manger telle nourriture? Il y en avait même qui avaient quelques scrupules, parce que ils se demandaient s'ils pouvaient manger de la nourriture qui avait été précédemment consacrée, ou préparé comme pour des idoles. Et d'ailleurs, il est obligé de leur dire, mais vous savez, l'idole, c'est rien. L'idole, c'est un morceau de bois, un morceau de plâtre, un morceau d'airain, un morceau d'or, d'argent, mais c'est rien. Dieu est le véritable Dieu. Et il semble leur dire, ne prêtez pas attention à cette nourriture. Et donc, d'un seul coup, eh bien, ils font une analogie. Et ils disent, ah bien, puisque tout est permis dans le domaine de la nourriture, tout est permis. Alors ils font une comparaison et ils disent, eh bien si cette soif, ce désir normal de la chair, on peut l'assouvir comme on veut, alors pourquoi pas ne pas faire la même chose dans d'autres domaines? Et dans le domaine sexuel, alors ils se livraient à toutes sortes de choses qui n'étaient pas, bien sûr, conformes à la volonté de Dieu. Mais eux prétendaient avoir cette liberté. Vous savez, certains chrétiens parlent de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et je voudrais vous dire, la liberté que possèdent les enfants de Dieu, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Mais c'est la liberté de pouvoir faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est une chose qui est importante. Alors, il reprend et il dit, tout est permis, certes, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais là, il s'agit de l'alimentation. Et tout de suite après, d'ailleurs, il précise et il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Il veut dire quand même que on ne doit pas se laisser dominer par une habitude qui va nous asservir. Et d'ailleurs, il le dit lui-même ensuite, « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Il y a des choses qui peuvent être considérées comme non pas un péché. Vous serez d'accord avec moi. La nourriture n'est pas un péché. Mais je mange pour vivre, je ne vis pas pour manger. Vous comprenez qu'il y a une différence. Et si l'aliment devient pour moi quelque chose qui prend une place prépondérante dans mon existence, je tombe dans une forme d'idolâtrie et je tombe aussi dans une forme de servitude. C'est comme cela que certains, peut-être même parmi nous, en laissant de côté la question de la nourriture, peuvent avoir certaines choses dont ils sont esclaves, mais dont ils disent, bon, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas un péché, j'ai cette mauvaise habitude, et je suis tenu par cela. Et souvent même, ils disent, mais vous savez, je peux m'en libérer quand je veux, c'est pas vrai. Personne ne peut se libérer comme il veut et quand il veut de certaines mauvaises habitudes. Et ces choses-là, peut-être, peuvent très bien ne pas être considérées comme un péché, Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas faire autrement que de continuer, ça veut dire que vous êtes asservi à cette chose-là. Et pour ce fait, eh bien, cette première partie de l'enseignement de Paul vient à notre aide et puis nous montre que nous devons demander au Seigneur d'avoir la possibilité de contrôler. Pourquoi l'Esprit de Dieu nous est donné ? Pas seulement pour l'exercice de quelques dons, mais aussi pour que le Seigneur règne dans mon cœur, puisque je suis devenu le temple du Saint-Esprit et celui qui est assis sur le trône de mon cœur, c'est le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'a qu'un seul rôle, c'est de glorifier le Seigneur, de le mettre à la première place dans ma vie. Et quand j'ai ça comme perspective, alors évidemment je vais comprendre ce que l'apôtre enseigne ici, quand il dit à un moment donné, mais après tout, ne savez-vous pas que votre corps et les membres de votre corps sont les membres de Christ ? Et il dit, vais-je prendre les membres de Christ pour les donner, les livrer à l'impudicité ? Si, par exemple, quelqu'un pratique la fornication, quelqu'un est dans la pratique de l'impudicité et qu'il a cette mauvaise habitude de souiller son corps en se joignant à une prostituée, que dit la parole de Dieu ? Il devient par cela même une seule chair avec cette prostituée. Comment peut-il donc honorer et glorifier le Seigneur ? Comment peut-il glorifier Dieu ? Et un peu plus loin, il va encore au-delà. Et il dit, mais votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ceci m'a amené à juste quelques points de réflexion que je voudrais vous présenter. Quand il fait cette comparaison, votre corps est le temple, c'est-à-dire l'habitation de Dieu en esprit. Il faut que je pense à la manière dont le temple a été conçu, puisqu'il y a une comparaison qui est faite par l'apôtre Paul lui-même. Je suis obligé de me pencher sur ce sujet et de dire, et au fait, le temple, sur quel modèle a-t-il été construit ? Ben, il a été construit sur un modèle qui avait été montré à Moïse, d'abord le tabernacle, mais en suivant la même ligne, le temple, de la même façon, avait plusieurs compartiments. J'aimerais vous parler de ces différents compartiments du temple. Vous le savez aussi bien que moi, parce que ce sont des choses tout à fait élémentaires. Il y avait le parvis. Là, c'est le côté extérieur, le côté visible. Tout le monde pouvait accéder là, parce que là se trouvait l'autel d'airain et la fameuse cuve aussi, où il y avait les ablutions qui étaient faites. Et c'est le point de départ de toute vie chrétienne, l'autel sur lequel il y avait les sacrifices offerts représente pour nous la croix de Christ, où l'agneau de Dieu a été immolé à notre place pour que nous ayons le salut et la vie éternelle. Et c'est le point de départ. Mais je dirais aussi, c'est là que commence ce que j'appelle la régénération. Voyez-vous, quand j'ai reconnu que Christ a pris ma place, qu'il est mort à ma place, que son sang me lave et me purifie de tout péché, un miracle s'est accompli au plus profond de moi-même. Voyez-vous, c'est là, dans le fond de mon cœur, où se trouve situé ce que la Bible appelle aussi l'Esprit, que miracle s'est accompli. Avant que je n'aie la révélation de l'amour de Dieu, eh bien, que dit l'Écriture au sujet de ce que nous étions par rapport à Dieu ? L'Écriture dit, nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. L'Esprit était mort, il n'y avait pas la vie. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'à un moment donné, Un miracle se passe, ce miracle s'est fait quand? Au moment de la régénération. Je dirais que ce miracle, il est comparable à ce fait que l'on trouve dans le Nouveau Testament quand, vous vous souvenez, Christ ayant tout accompli sur la croix, au moment où il a pu dire « Tout est accompli », quelque chose s'est passé à l'intérieur du temple. Ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile, s'est déchiré du haut en bas. Et il y avait donc une possibilité à ce moment-là d'entrer dans ce qui était pourtant défendu avant, dans le lieu très saint. Quelle surprise pour les sacrificateurs quand cela s'est produit. Et nous savons quelle est la parole de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit que maintenant nous pouvons entrer dans le lieu très saint par le voile déchiré de la chair de Jésus. Mais quand je parle de régénération, je sais que la régénération n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, et là c'est un point important, parce que je trouve trop de chrétiens qui sont dans la confusion dans ce domaine. Voyez-vous, quand j'ai été régénéré, l'Esprit de Dieu est venu aussi habiter en moi. Jésus dit, si quelqu'un reçoit ma parole, nous viendrons. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure dans ce cœur. Si j'insiste sur ce point, c'est pour que chacun soit bien conscient d'un fait. L'Esprit de Dieu vient en nous le jour où nous sommes régénérés. Le jour où nous avons ouvert notre cœur au Seigneur et l'avons accepté comme notre sauveur, alors Jésus est entré dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il est dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, je remarque dans la parole de Dieu, et notamment à la fin de l'évangile de Jean, on voit Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Et écoutez bien, quand il est ressuscité d'entre les morts, il vient là, dans cette pièce où étaient rassemblés encore les disciples. Et vous avez certainement constaté et remarqué dans l'Écriture qu'à un moment donné, Jésus va souffler sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Et pourtant, c'est à peine quelque temps après qu'il fait cette promesse, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vienne justement le Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce qui veut dire qu'il y a une étape qui s'appelle la régénération, qui nous permet de voir Dieu venir habiter en nous. C'est la raison pour laquelle Paul peut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et de la même façon qu'il y avait trois parties importantes dans le temple, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, il y a dans notre corps ces trois parties. La partie visible, avec les actes que tout le monde peut voir, mais des actes qui doivent être sanctifiés, que nous faisons avec les membres de notre corps. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas donner les membres de notre corps lorsque nous sommes conscients que nous appartenons à Dieu, à l'ennemi, à les livrer au péché pour en arriver à une honte, à rougir de honte, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit « je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu ». Alors au lieu de livrer mes membres au péché pour en arriver à la corruption et à des choses ignobles, je les livre comme des instruments de justice au Seigneur qui a fait sa demeure en moi. Et le lieu saint, c'est quoi? C'est mon intelligence, mes pensées, ma volonté, mes sentiments, c'est l'âme. Et ça, eh bien, c'est sanctifié aussi par l'action du Saint-Esprit. Quand il est à l'œuvre, mes pensées, elles sont contrôlées par l'Esprit de Dieu et c'est amené comme cela à avoir la pensée de Christ. Je ne me laisse pas dominer par les sentiments qui peuvent me tromper. Les émotions sont trompeuses, mais même les émotions peuvent être contrôlées par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, pardon, si quelques-uns peuvent se sentir visés ou blessés ce soir par ce qui va suivre. Mais voyez-vous, moi je crois que quand il y a une action puissante, profonde du Saint-Esprit, ça peut être très bien valable sans qu'il y ait une manifestation extérieure qui pourrait nous faire croire que nous sommes presque en transe. Écoutez bien, quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se sent à l'aise en nous. Il n'y a rien qui doit être bouleversé. Et comme cela, je suis toujours surpris quand quelques-uns croient qu'il est nécessaire d'avoir certaines manifestations physiques extraordinaires. C'est arrivé le jour de la Pentecôte, mais ce n'est pas comme cela que nos émotions doivent toujours prendre la place à une action puissante du Saint-Esprit. Il y en a certains qui peuvent avoir des manifestations extérieures vraiment incroyables et qui pourraient nous faire croire, oh là là, il est vraiment sous une action terrible de l'Esprit, mais dans leur cœur, il n'y a rien qui est changé. Et voyez-vous, l'Esprit de Dieu, il travaille en profondeur. Et après, les émotions, les sentiments, la pensée, il y a la troisième partie de notre être. C'est l'Esprit là où Dieu se révèle. C'est la raison pour laquelle Paul ici dit « Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Et il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous l'avez reçu. Prenez conscience de cela. Et en prenant conscience du fait que l'Esprit de Dieu habite en moi, alors je m'en vais chercher davantage le Seigneur, être pressé d'un amour réel pour le Maître, parce que j'avais besoin de cette deuxième étape. Il y a cette action de l'Esprit de Dieu qui me régénère, mais il y a cette action que l'on a l'habitude d'appeler le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je voudrais vous dire que quelque part, dans mon cœur, il y a un doute à ce sujet-là. J'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, il faut une onction particulière, il faut recevoir une marque particulière. Et cette marque particulière, c'est celle qui s'est produite le jour de la Pentecôte, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en langue. Mais j'ouvre ici une parenthèse. Je sais que je vais en choquer quelques-uns, mais tant pis. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes propres convictions profondes qui sont au fond de mon cœur. Quand on dit dans notre milieu que le parler en langue est le signe initial, eh bien, je vais vous dire, avec certains autres qui partagent mon point de vue dans ce domaine, c'est faux. C'est pas le signe initial, mais c'est le signe évident. Vous allez dire, mais quelle est la différence? Je vous explique. Vous allez comprendre au travers de ce que je vais essayer de vous décrire. Vous savez, j'ai entendu un jour un serviteur de Dieu s'adresser à des chrétiens qui étaient là, dans la communion fraternelle, et il leur a dit, alors maintenant, il faut que vous cherchiez le Saint-Esprit. Et c'est maintenant qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Alors il leur disait, parlez en langue, parlez en langue. Mais dites-moi, là peut-être c'est le signe initial. Le signe initial, ça veut dire que ça précède le baptême. Initial, c'est au commencement, ça précède. Eh bien non, c'est faux. Lisez bien ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, le Saint-Esprit remplit non seulement le lieu dans lequel ils étaient, mais leur cœur. Il descendit sur eux, il les remplit du Saint-Esprit. Et alors, comme une évidence, ils ont parlé en langue. Est-ce que vous avez bien suivi ma pensée? Si on fait les choses à l'envers, eh bien, regardez ce qui s'est produit dans certains endroits. On a tellement forcé les gens en leur disant, allez, allez, il faut vraiment que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, on a bien souvent dit à certaines personnes, écoutez, si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas servir le Seigneur dans l'Église. Si vous ne parlez pas en langue, eh bien, vous ne pouvez pas servir la Sainte-Cène. Si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas diriger les chants. Mais d'où est-ce que l'on sort une chose pareille? Il y en a qui parlent en langue, mais qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure au travers de cet exemple, être là dans la communion avec le Seigneur, en étant par lui-même imbibé. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, il est dit ici, vous serez mes témoins. Mais comprenez pourquoi les disciples, eh bien, pouvaient bien saisir cette parole. Quand Jésus lui-même était ici-bas sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lui-même, dans l'Évangile, il dit, « Je suis là pour rendre témoignage à la vérité. » Et tout le monde pouvait se rendre compte, dans sa manière de vivre, de ce qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. De plus, ils avaient vu l'Esprit Saint descendre sur lui le jour de ce baptême. Et il rendait témoignage à quoi? À la vérité. Et si le Saint-Esprit vient en nous, or, que dit la parole de Dieu? Dans l'Évangile, il est dit aussi, Jean chapitre 15, verset 26, « L'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit rend témoignage à Christ. Et voyez-vous, si on ne peut pas voir Christ dans notre vie, alors ne me dites pas que l'on est rempli du Saint-Esprit. Ne me dites pas, même si vous parlez en langue, que vous connaissez quelque chose de cette plénitude. Car voyez-vous, ça, ce n'est que les apparences. Et Dieu voudrait nous amener à une réalité. Moi, le premier, je demande à Dieu de pouvoir être un témoin efficace. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu nous remplit même de sa puissance, écoutez bien, il ne nous donne pas une puissance que l'on a, va pouvoir utiliser d'une manière indépendante comme si elle était notre puissance à nous. Parce que j'ai entendu des fois des chrétiens parler de certains ministères en disant « Oh, un tel, il a une telle puissance ». Il n'y a aucune puissance. La puissance, elle appartient à Dieu. Elle ne vient que de Dieu. Et d'ailleurs, regardez comment l'apôtre Paul lui-même s'exprime. À un moment donné, il s'adresse encore aux Corinthiens. Et il dit, j'étais parmi vous, dans la crainte, dans le tremblement, dans un grand état de faiblesse. Pourtant, vous savez bien que s'il y a quelqu'un de puissant, c'est bien l'apôtre Paul. Et il avait un ministère qui était exceptionnel. Et il dit, mais voilà dans quel état je me trouvais. Grand tremblement, une impression de faiblesse. Mais je ne compte pas sur ce que je suis, dit-il. Il dit, mais ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Mes frères et sœurs, c'est ça la prière de mon cœur. C'est ça que je demande à Dieu. C'est ça que nous avons besoin de demander à Dieu. Parce qu'en plus, il est dit, quand il viendra, l'Esprit Saint, il compte.